Donc le Shabbat. Pourquoi Dieu a-t-il accordé une telle importance à Shabbat et qu'on ne fait pas un autre jour? Pourquoi, si on doit ressembler à Dieu, a priori on doit ressembler à Dieu dans pas mal de ses qualités, en quoi le fait de s'être arrêté de faire de la création, c'est si génial pour qu'on ait à le refaire chaque semaine et...
Ok. Bon alors, comme j'ai commencé à dire la vraie, totale réponse, je ne pourrais pas te la dire, parce qu'elle est trop haute, trop profonde pour moi-même aussi. Si un peu nous-mêmes, de façon humble, peut déjà donner une direction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la création? Dans la création, Dieu a créé le monde. Bara. La première chose qu'il a fait, c'est Bereshit, Bara. Bara, ça vient du mot araméen, ou le mot araméen bar vient du mot bara, c'est la même racine, c'est extérioriser. Quelque chose qui est intérieur, il y a une volonté de Dieu, il y a un plan de Dieu. Mais ce n'est pas encore réalisé. La réalisation s'appelle Bria. C'est passer de ce qu'on ne voit pas à ce qu'on voit. Ce que les Bria appellent ex nihilo. La création ex nihilo, c'est fait au premier moment de la création. Comme dit Rachid Issio, c'est là aussi, le Ramban, qu'au début il y a eu Rachid dit que tout a été créé le premier jour, et après ça a dû pendant les... La terre a été créée le premier jour, après pendant les six mêmes, les végétaux, tout ça a été déclaré en pote en pierre, et pendant les six autres jours, Dieu va en sortir. Le Ramban dit une chose qui attend beaucoup plus que ce que dit aujourd'hui la science, et c'est marqué très clairement dans le livre de mystique juive, qu'au début Dieu a créé ce qu'on appelle le Ayouli. Ayouli, c'est ce qu'on dit en français le magma, d'accord, une sorte de... avant la matière. Pas anti-matière, mais anté-matière, d'accord, une chose qui est encore avant la matière. Duquel va sortir la matière? C'est la matière de base. La matière de base, tu n'as pas encore les 92 éléments, tu n'as pas encore des atomes ni des quarks. Tu es encore avant tout cela. On est dans le Big Bang, dans les premières. Encore la première seconde du Big Bang, où on a maintenant du magma. Ramban dit, il y a 800 ans, qu'on a une matière première, duquel vient tout le monde, très très dac, dac de très fine au niveau. C'est pas grossier comme on a aujourd'hui le monde, c'est au niveau vraiment très très potentiel et concentré. Après, c'est le Ayouli. Bon, Ayouli, magma, c'est la même chose. Et il y a un éclatement de tout cela, ça crée, qui remplit tout l'univers, et ça crée le monde. Alors, tout de suite, ça se dit le Big Bang. Le Big Bang, c'est-à-dire il y a 50 ans, peut-être. Le Ramban, il y a 800 ans. Dieu crée le premier jour ce matin. Après, pendant 6 jours, on va travailler la matière première. Pour en arriver aux 92 éléments, arriver à ce monde-ci. Pourquoi 6? 6 parce que 6 correspondent à la matière. La matière, c'est qu'est-ce que c'est? C'est dans l'espace. Donc l'espace, il y a aussi temps. Comme ça dit le Ramban aussi, au même endroit, il dit, et le temps commence avant la matière. C'est très intéressant de voir que Einstein aujourd'hui et les grands savants en astrophysique, ils disent que le temps commençait avec la matière. C'est-à-dire que tu as la matière est lié avec le temps. Il ne peut pas y avoir de temps s'il n'y a pas de matière. Ce n'est pas qu'il y a avant le Big Bang. C'est une fausse proposition. Il ne faut pas dire cette chose-là, avant le Big Bang. Parce que quand on dit avant, il y a le temps. Or, avant qu'il y ait Big Bang, il n'y a pas matière. Tant qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Ça, c'est Einstein qui a découvert, il y a un siècle bientôt un siècle, en 1907. Le Ramban le dit il y a 800 ans. D'accord ? La matière, le temps commence avec la matière. Alors, la matière et le temps, ils ont une place dans l'espace, l'espace-temps, une place. Quand on parle de Dieu, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de place. On dit que Dieu est la place du monde. La matière, elle prend une place dans Dieu, en quelque sorte, d'accord ? On prend une place. Place, toujours définie, trois plans, six côtés. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Six côtés. Vous savez qu'il y aura six jours. Et le Zohar dit une chose qui est très belle, il ne dit pas qui bechechet yamim bara elokim et kashamet haaretz. Pas en six jours, comme c'est traduit dans le rabbinat, comment c'est marqué dans la Torah, qui bechechet yamim. Car six jours, Dieu a créé. Pas en six jours. En six jours, il y a eu six jours. Six jours, c'est-à-dire que la réalité, elle est six. La réalité, elle est six. La mystique juive va te dire maintenant, qu'est-ce que c'est que ces six côtés? Ben ça cherche sa voix, les six côtés. Dans les sphères, tu as et se faire correspondre au nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He, la lettre Vav correspond à 6. Ce sont, tu as Yud correspond à la première, alors, le côté du Yud, la pointe du Yud correspond à la première, Keter, Yud, c'est Chorma, He, c'est Bina, après Vav, c'est les 6, Chesed, Vura, Tiferet, Netsa, Od, Sod, et le dernier He, c'est la moitié. Mais, et la réalité de l'être, d'accord, ça correspond à ce Vav. D'accord, c'est nous sommes définis par 6. Et on a en nous un côté droit, très sève. On a en nous un côté gourat. Dans le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne. Bon, on va revenir peut-être moins haut. On revient ici à la matière. D'accord. Donc la matière est définie par 6. Le monde, il est créé par 6. En 6. C'est la matière. La définition de ce monde-là, c'est 6. La matière, elle est morte. C'est-à-dire que même si tu as maintenant des animaux qui se meuvent, si tu as maintenant des végétaux qui poussent, il y a une certaine forme de vie. Pour nous, c'est mort. Parce que tout cela n'a pas de sens. Quand une chose n'a pas de sens, elle n'est pas. Une chose est quand elle a un sens. Quelqu'un qui, durant toute sa vie, il est mu par ses pulsions, on appelle ça un mort-vivant. La Torah appelle un rachat, les rachaïm sont appelés morts dans leur vie. Rachaïm, mechaïm, kouim, metim, dans leur vie sont appelés morts. Et tzadikim, dans leur mort, sont appelés vivants. Parce que la vie, c'est réaliser le but. Le but, c'est pas être ici comme un chien qui se marie avec une chienne, qui fait des petits chiots, et qui mange, et qui se bat, et qui meurt. Pas le but. Il n'y a pas des chiens améliorés, des vaches améliorées. Tout ce monde-là a un sens. Ça, c'est la vie. Quelqu'un ainsi n'a pas de sens, même si on l'homme le plus simplement, s'il ne va pas se donner un sens à sa vie. Arroser son pot de géranium. Une vieille dame, sa raison de vie, ça peut être son pot de géranium. Un autre, ça va être une existence partielle. Un quatrième, ça va être, je ne sais pas moi, sous le peuple palestinien. Un cinquième, sous le peuple juif. Chacun, mais qu'il faut un but. Donc, il faut un but. Ce n'est pas une finalité qui dépasse les pulsions animales, qui ne vit pas. On a besoin, c'est vital, c'est plus que vital. À nous de ne pas nous tromper et de définir quel est le vrai but, pour ne pas se planter. Parce que je suis plus qu'un pot de géranium. D'accord ? Ou sauver un peuple ou mettre sans frontières. C'est très bien tout cela, mais il faut que le but qui soit le but de l'humanité. Un but qui, en fait, réponde à toutes les fonctions de l'être. Ça, ça s'appelle le septième point. C'est le centre du tout. Dieu, le septième jour, va insuffler le sens. Ça correspond à la dernière sphère, le 6, la septième, ma royauté. Comme on dit dans la prière de Shabbat, Ismeru, le malfotera, Shora Shabbat, le coroner. Ils seront. On se réjouira de ta royauté, parce qu'il y a la royauté de Dieu qui se dévoile, genre, Dieu vient. La royauté, c'est quoi? C'est l'aboutissement de tout. C'est maintenant, un roi, il est là, en fait, pour servir le peuple, le dévoilement de la royauté se fait dans, lorsque le peuple voit le roi. Shabbat, on voit le roi. Ça, c'est le Shabbat. C'est-à-dire que le sens de la vie, il apparaît. Je saute des choses très profondes de nouveau à terre à terre. Aujourd'hui, en terre à terre, que septième jour, on va insuffler la vie, c'est-à-dire la finalité, le sens de ce monde. Nous, à l'instar de Dieu, on va faire la même chose. C'est quoi à l'instar de Dieu? C'est pas qu'on fait une copie et c'est tout. C'est-à-dire que toutes les semaines aura lieu de nouveau en macrocosme ce qui s'est passé à la création. Pendant 6 jours, le monde est en état de création matérielle. Nous, à l'image de Dieu, nous sommes les mains de Dieu, nous sommes la finalité de Dieu sur terre, l'être humain, il va agir dans la matière. C'est quoi agir? C'est pas travailler, comme on dit, on travaille 6 jours, c'est le jour où on se repose. Ça, c'est un canular, exactement. Une erreur. Shabbat, il est interdit de faire une melacha. Melacha, on a étudié dans les halakhot de matin, melachet marchevet asra Torah, une melacha de pensée, ça veut dire un aboutissement de ma pensée. Si quelqu'un, Shabbat, sans faire exprès, avec son dos, il s'est collé au mur et allumé la lumière, elle n'a rien fait. C'est complètement permis. Elle a le droit de le faire. Si sans faire exprès, ça ne sert à rien. Si elle allume la lumière, Shabbat, on est aux toilettes, il se lève au milieu de la nuit, oui, c'est Shabbat, il allume la lumière, là oui, c'est interdit. Pourquoi ? Il n'a pas interdit de façon involontaire Shabbat, mais il a fait un interdit, parce qu'il avait l'intention d'allumer la lumière. L'objet, c'était Shabbat. Il avait l'intention. Bon. Lorsqu'il y a une action qui se fait en tant qu'aboutissement de ma pensée, du même que Dieu, durant les six jours, il va faire une réalisation de sa pensée. C'est quoi la création ? C'est l'aboutissement de la pensée de Dieu, l'aboutissement du désir de Dieu. Pendant six jours, tu vas faire la même chose. Comment ? 39 façons. Dieu a agi de 39 façons sur terre. 39 façons. Il a fait 39 actions divines dans la matérialité à l'époque de la création pour créer ce monde-ci. Pour arriver à ce monde des 92 éléments, le monde tel qu'il est, minéral, végétal, animal, humain, tout cela, même les anges ont été créés le deuxième jour de la création, tout cela, il a dû faire agir 39 forces divines. Nous, Dieu agit d'une façon, nous, à l'instar de Dieu, de façon beaucoup plus matérielle, on peut agir dans la matérialité que de 39 façons. Agir, ça veut dire une intervention constructive. J'ai une pensée, je vais maintenant changer une chose dans la matière. Je peux changer dans la matière de façon constructive que de 39 façons. Pas plus. Tu peux changer, tu ne vas pas trouver. Il n'y a pas plus. Tu peux labourer. Déplacement de terre afin de pouvoir semer. Tu peux semer et faire tout ce qui va faire que les choses vont pousser. Tu peux récolter. Tu peux après vanner, c'est vanner, à part faire des blagues, hein. Dorer, d'accord. Faire le tri entre les grains et les écorces en l'encendant en l'air, d'accord. Ce sont toutes des actions qui vont intervenir de façon constructive dans la matière. Même détruire. Si quelqu'un détruit pour détruire, il n'a pas transgressé Shabbat au niveau des 39 travaux. Il a fait une interdiction, mais moins grave. Si elle détruit pour mieux reconstruire, là c'est interdit.
On ne devrait pas proposer alors pour créer Shabbat de faire un enfant. Ça,
non, il n'y a pas de menace là-dedans. C'est pas que tu as pris une chose de matière. Au niveau de la matière stricte, il n'y a rien qui se passe. Il y a un contact physique et puis c'est rien. À ce moment, on ne peut pas non plus réfléchir. Je réfléchis maintenant, tout d'un coup, hop, je travaille mon cerveau, j'ai des nouvelles idées qui arrivent. Ni je peux manger, ni aller aux toilettes, d'accord ? C'est pas de cela qu'on parle. On parle d'une intervention de l'être dans la matière. Tu n'as rien changé dans la matière.
On assure quand même. Si, j'ai changé quand même.
Oui, au niveau humain.
C'est une intervention métaphysique ? Ou c'est là quand on parle de toutes ces actions,
On parle
de répercussions métaphysiques ou...
On parle que de changement physique, du statut de la matière physique. J'entends ta question. On n'a pas le droit de semer Shabbat, c'est vrai. Et là, on pourrait dire quelque part, on sème. Alors pourquoi ?
Pardon ? Ça se dépend de ça. Mm-hmm.
Et c'est une mitzvah en plus, Shabbat.
C'est semer pour le but. Alors là, c'est pas ça, c'est la règle qu'on peut prendre. Ça a été une règle de grande mise. Ah, aussi, c'est pas semer pour le but quand on entend. Semer pour le but, ça dépend toujours dans les nerfs de la Tachem. Alors que là, ce qu'on a parlé d'un terme de Zoréa, c'est semer, c'est plus large que ça.
Enfin, moi, je pense répondre autrement. Je pense que dans l'intervention dans la matière que nous faisons, c'est à sens unique. Tu vas et tu changes dans la matière. Tu utilises maintenant des éléments, tu vas changer. Comme Dieu a été et a changé dans la matière. Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? Quand on dit que Dieu a donné le sens, que Dieu a dévoilé sa royauté, c'est marqué que Dieu, il a insufflé des napar. Ce qu'il a soufflé, midilé n'a pas, de lui-même il a insufflé. Dieu a soufflé de lui-même. Il y a eu une union entre ce monde-ci et le monde d'en haut. Dieu a insufflé du monde d'en haut dans ce monde-ci. C'est le sens. Shabbat, nous faisons la même chose. Pendant les six jours de création, on va intervenir dans la matière de façon constructive de 39 façons. C'est brancher matière. Shabbat, tu débranches matière, tu branches Dieu. Il y a l'union qui se fait. Une union, une vraie union qui a lieu comme l'union d'un homme et une femme. Lorsque Shabbat rentre, on dit Boikala, Boikala. Viens la fiancée. C'est qui le marié? C'est nous. Il y a une union carrément comme une union entre un homme et une femme, intime. Il y a une union intime entre Dieu et nous. Pour cela que la mitzvah de réunion entre l'homme et la femme Shabbat est une grande mitzvah. Parce que c'est, nous faisons la même action que Dieu fait. Comme nous nous unions avec, nous unissons avec Dieu, nous unissons avec Dieu, et c'est un donnant-donnant, nous sommes le côté, la vérité c'est que nous sommes le côté, Shabbat appelle la Malka, la reine. Mais je pense que Dieu dans, là-dedans, il est le côté, je ne sais pas, qui est le côté masculin, qui est le côté féminin.
Malka c'est Shabbat, quoi.
Ouais.
Malka c'est Shabbat. Ouais, Shabbat Malka. Là, dans ce sens-là, ce Malka, ça serait Dieu.
Non, Shabbat, c'est le nom de Dieu. Shabbat est le nom de Dieu. Shabbat, c'est le nom de Dieu. La Shrina vient, c'est le Hegel de Dieu, c'est la malchoute de Dieu. Elle vient, elle rentre, elle vient dans son peuple. Le jour du Shabbat, c'est un jour de Shrina, c'est un jour de Kudusha. C'est un jour de sainteté. Ça veut dire qu'il y a une présence de Dieu ici très très puissante. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? A lieu l'union. C'est-à-dire qu'il y a une réénergisation spirituelle. Dieu vient maintenant et dit, ok, je suis là, voici le but du monde. Le but, je reviens donner maintenant un sens à tout cela. Parce que quand tu as ajouté dans la matière, sans qu'il y ait maintenant un sens, qu'il n'y ait pas un arrêt, alors pour rendre la matière, on s'aliène dans la matière. On ne veut pas s'aliéner. Il y a la matière, mais elle a un sens, il y a un but. Le Shabbat, on arrête. Et on fait, on remet les produits à zéro, on fait une réorientation, une réénergisation, une ré-polarisation vers Akadosh Baruch Hu. On s'unit maintenant vers le but. C'est pour cela que lorsque tu es en relation intime avec le Créateur du monde, il n'y a pas de chose plus puissante que cela. Il n'y a pas de fête plus grande que Shabbat. Kippour est beaucoup moins grave. Beaucoup moins grave. Quelqu'un qui prend le Kippour, c'est un Issour carré.
On l'appelle Shabbat Shabbat. Non, non.
Celui, c'est un Shabbat, mais c'est quand même, ça ressemble à Shabbat. C'est la fête, c'est la fête la plus grande de toutes les fêtes, elle ressemble à Shabbat. Elle ressemble à Shabbat. Le problème avec Shabbat, c'est qu'il n'y a pas Shabbat. Kippour, c'est que carré, que, d'accord, carré. Shabbat, c'est carré, plus une calme, une plus qu'il a. C'est le plus grave qu'il puisse y avoir. Il n'y a pas plus grave que cela. Il n'y a pas plus grave que cela. Pourquoi? Parce que tu touches maintenant l'union, le monde, c'est le fonctionnement du monde qui dépend de ça. On verra chose stupéfiante. Stupéfiante. Tu vas dans toutes les tribus les plus reculées au monde, dans toutes les situations au monde, tous fonctionnent par 7. Ils ont une semaine de 7. Et puis que rigolo en 1793, c'est ça? Ah oui, j'en
pensais.
Moi, je suis.
Non,
1789. Elles ont eu une semaine de 10 jours. Le Brumaire, le plus de gens, c'est d'accord, on est venu il y a 40 ans ou plus, d'accord. Une semaine de 10 jours, ça a tenu combien de temps? Même pas 3 mois, d'accord, c'est ah, ben, ils sont revenus à 7. Pourquoi? Alors que 7, c'est franchement pas. C'est pas rangeant le 7. Fais-moi 10, c'est propre, c'est bien, c'est unité, 10, 20, 50, 100. Là. Pourquoi le monde entier fonctionne par 7? C'est stupéfiant. Je ne parle pas maintenant des religions telles que l'islam et la chrétienté qui sont plus ou moins voisines, etc. Je parle là, au fin fond, de l'Aztèque, qu'est-ce que j'en sais, moi, c'est les Chinois et en Alaska. 7.
C'est la raison pour laquelle il y a 7 points de l'Antique.
Pardon? Non, je ne pense pas que c'est qu'il y a. Je ne pense pas qu'il y a un rapport. Peut-être, je pense pas qu'il y a un rapport.
C'est quoi le but de Shabbat au niveau spirituel, exactement? À quoi on doit en venir lorsqu'on fait Shabbat? Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
Une union avec Dieu. Une union, non seulement au niveau de la connaissance, mais au niveau du senti. Parce que Shabbat, quand on arrête, c'est magique, quand on arrête de faire les 39 travaux de Shabbat, plus on est à la télévision avec minuterie, plus on fait tout ce qui est bien, le moins petit, faire attention aux petits interdits les moins graves, alors il y a une chose extraordinaire qui se passe, c'est qu'on sent Shabbat, on sent Dieu, mais dans les choses les plus matérielles. Il y a une mitzvah de manger Shabbat. Puis je vais de s'unir avec sa femme Shabbat, de se reposer Shabbat. On attend des pulsions les plus animales. Comment ça se fait? Parce que Dieu veut arriver à sanctifier même l'animal. Mais attention, il y a un travail, parce que je peux manger maintenant Shabbat pour mon estomac, elle peut sanctifier le Shabbat. C'est autre chose. Essayez de manger une bouchée de, avec un bon goût, d'accord, c'est agréable, mais l'Hirvot Shabbat Kodesh, pour l'Anek de Shabbat, pour la sanctifier le Shabbat, pour le kiff du Shabbat, c'est tout à fait une autre dimension. C'est une autre dimension.
La pensée ou bien...
La pensée, elle agit, la pensée.
Penser quand je mange, je dois penser à ça.
Oui, absolument. Quand tu manges, tu penses maintenant que la jouissance du repas que tu as, quand tu dors, la jouissance de dormir, la jouissance elle est maintenant en est Shabbat. Ça donne une autre dimension à toi, c'est-à-dire que tu sanctifies le plaisir matériel. Tu as un plaisir matériel. Tu as une grande mitzvah de sanctifier Shabbat. Les femmes aussi, quand elles cuisinent pour Shabbat, demandent-leur, quand elles font tout pour le Shabbat, elles sentent une grande kdusha. Il y a une kdusha. Le Shabbat, c'est quelque chose qui est. Je crois que dans toutes les mitzvahs que nous avons, il n'y a pas de mitzvah aussi perceptible au niveau du corps que Shabbat. Parce que qu'est-ce qu'un Shabbat? Toutes les mitzvahs existent très haut. Shabbat, c'est le haut qui descend dans le plus bas qu'il y a. C'est, on descend à la septième sphère la plus basse. Dieu vient, se dévoile là. On l'a rasé. Ça correspond aussi dans les 6000 ans du monde. On a 6000 ans, on parle dans l'an 6000, on parle dans le septième millénaire, c'est le Shabbat. Il sera là. Là, ce monde-là est détruit, c'est-à-dire qu'on passe dans une autre phase. Là, tout le monde y passe, hop, le monde matériel passe dans une chose beaucoup plus haute.
Non, Shabbat. La préparation du Shabbat.
Pardon ?
Non, il y en a la préparation.
Absolument. Je voudrais qu'il ait marqué que celui qui garde Shabbat comme il se doit bien, on lui pardonne tous ses péchés, y compris Avodah Zarah. Avodah Zarah, l'idolâtrie.
Non.
Pourquoi? Parce qu'en faisant le Shabbat, tu dis par cela, tu dis pas seulement que le monde est créé par un Dieu, tu dis que Dieu, il est là. Là, maintenant, c'est quoi Avodah Zarah? C'est prendre ce monde-là et donner une finalité au monde qui n'est pas la vraie. Zarah signifie étrangère. Tu donnes au monde une finalité étrangère que son vrai but. Lorsque tu fais Shabbat, tu recentralises vers le vrai but. C'est la finalité, sentir, connaître Dieu, s'unir à Dieu. Attends, je vais tout le pauvre Jacob, il se pose des questions, on lève le doigt depuis 10 minutes.
Le but de Shabbat, ce ne serait pas de pouvoir se passer des besoins quotidiens, de pouvoir se passer par exemple.
Faisons le mardi.
De la nicotine, ou de ce genre de choses.
Faisons ça le mardi, faisons ça une fois tous les 5 jours, faisons des intox une fois par année. C'est beaucoup plus grand.
C'est pour ça, non?
Ça, c'est à côté. Ça, c'est les cadeaux bonus, d'accord? Ça, c'est en passant.
On arrive à se passer de ces besoins-là, quand même.
Oui, mais c'est pas la finalité. C'est beaucoup plus grand. Je sais pas.
Bien sûr.
C'est pas quelqu'un parce que maintenant il arrive pendant un jour de ne pas prendre la nicotine, que non, s'il a transgressé, on va le lapider. À l'époque du temps, un petit disait ça. Il écrit son nom. Il a écrit Yaakov. Il s'est pas foulé. Il ne s'est pas fatigué. À l'époque, on le lapidait. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne suis pas passé du crayon. Ok, c'est fini, je ne vois plus un crayon de ma vie. Ça, bon, mais attends, branche-moi. Non, le lapide, terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on ne peut pas réduire le Shabbat à cela.
Oui, bien sûr.
Le Shabbat, c'est une chose qui est tellement colossale. C'est que quelqu'un qui a touché le Shabbat, il a touché Dieu. Il a touché Hachetena. Il a touché le Shabbat, c'est le nom de Dieu. On n'a pas le droit de penser, de dire le nom Shabbat dans les toilettes. Oui, il y avait une autre question.
On parle de relation intense d'union avec Dieu.
Oui.
Comment on peut parler d'union si on ne connaît pas cette réalité qui est Dieu? On peut parler d'union quand on connaît la réalité.
Absolument.
Mais du fait qu'on ne connaît pas cette réalité qui est Dieu, alors comment on peut parler d'union et de relation?
Le seul moment, le moment le plus facile pour commencer à connaître cette réalité, c'est le Shabbat. C'est magique. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, de façon artificielle, il fait attention de bien faire son Shabbat, de pas apprendre à la chôte, il y en a des dizaines de milliers. Et il y a une promesse que si on n'apprend pas à la chôte, on transgresse. C'est tout ça, comme ça, Shabbat, tac, lapidation.
À ce point-là, c'est...
Ouais.
Il n'y a pas de...
À l'époque du camp, il y avait deux témoins, on t'a averti, etc. Mais, carré, Shogeg, d'accord? Si quelqu'un fait ses éducations comme ça, à Drabah, il apprend un bouquin aussi un peu étudié, en passant, d'accord? Mais il fait attention, même en mangeant, c'est tellement facile de faire un beau rêve. Un beau rêve, c'est un... Quelqu'un qui n'a pas pris beau rêve, il fait 40 fois, il se rend à Shabbat en un repas.
Il faut énormément étudier quand même pour...
Oui,
à l'époque, il devait toutes les connaître.
Oui, aujourd'hui aussi, on les connaît.
Il y a un livre entier sur ça.
Regarde, tous les matins, il y a un chibot, de 9h05 à 9h05, non, c'est moi, tu connais ça. C'est pas non plus la mer à boire. Tu apprends une formation, c'est pas compliqué, n'importe quel juif le sait. D'accord ? Quand quelqu'un, de façon artificielle, il fait cela, non seulement 39 travaux et 39 femmes, mais aussi les petits détails,
de façon magique. C'est ça qui rend le chemin.
De façon magique. Alors il ouvre, il s'est débranché de la matière, il a ouvert maintenant son tuyau spirituel, et Dieu va rentrer. Dieu va rentrer. Et quand Dieu va rentrer, il va, petit, il sent qu'il irradie. Il irradie. Et c'est pas normal qu'il ne sente pas. Il va le sentir. S'il ne sent pas, c'est que ou il n'est pas juif, ou il sent un Shabbat. Ou il a tellement bouffé du Shabbat tiède dans sa vie que c'est très dur pour lui. Quand quelqu'un a bouffé tiède, c'est dur après de réchauffer. Il faut le réchauffer. Quand quelqu'un n'a pas connu Shabbat, il vient, des fois, on croit qu'avec Shabbat, ils sont des trucs extraordinaires. On sent un bonheur. Parce qu'on est branché avec la source. On est censé. C'est marqué comme dans l'Echadoni, on dit Mekor HaBracha, la source de Bracha. Bracha, c'est la bénédiction. C'est quoi bénédiction? C'est le flux qui vient d'en haut. On peut l'appeler lumière, joie, vie, intensité, bonheur, santé, tout ce que ça, tout rentre, sainteté, toute cette relation avec Dieu, unité avec Dieu, tous ces termes-là sont le même synonyme, la même chose. Branchement avec Dieu. Branchement avec Dieu. Le mot Kudusha vient dans la prière de Shabbat, je ne sais pas, 10, 15, 20 fois. Kadosh, 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 sans Kadosh. Yaï, c'est quoi Kadosh? C'est sacré, c'est-à-dire la sainteté. Tu es maintenant hors de ta réalité normale. T'as une réalité qui est une réalité X durant les 6 jours. Le 7e jour, tu changes de réalité. Tu t'habilles autrement. T'as une tête différente. T'as une tête différente. Une fois, j'ai pu être en ville. Un Shabbat, comme j'étais parti à l'étranger, j'étais encore jeune et il n'y avait pas les enfants, je suis allé dans une yeshiva, passer Shabbat, et là-bas il y a le Rav Edson qui donnait un cours, près de la yeshiva. Alors je suis allé écouter les gens en France, je m'assieds près de quelqu'un, pendant 5-10 minutes, j'ai vu, je n'ai pas fait attention que c'était, enfin, 10 minutes je vois, c'est qui mon Chavruta, le type avec qui je suis, 8 heures par jour, tous les jours. Je n'ai pas reconnu. Au début, je n'ai pas reconnu, il y avait une autre tête. Shabbat, on a une emplette. C'est quelqu'un d'autre. C'est habillé différemment. Vous ne sentez pas, ça doit être quelque chose. Ouais. On va en mikvé, c'est marrant, on plonge en mikvé, on pense à un moment, on levait la neshama, la nefesh de folle, et après on va recevoir le neshama de Shabbat. On est bien une autre réalité. Tu marches différemment, tout est différemment. C'est mieux ça de marcher différemment Shabbat.
C'est marqué.
Tu marches différemment Shabbat, on ne peut pas marcher la même chose. Quelqu'un qui vibre Shabbat, il ne peut pas marcher la même chose. Il ne peut pas marcher la même chose, c'est impossible. Sans petit nuage. C'est vraiment très accessible. Ma fille m'a raconté, elle a dans sa classe, une fille, fait des chassidim. Sa fille lui a dit, c'est pas des bacs, ça existe à nos générations, messieurs. Son père, tous les Shabbats, en faisant des kiddouches, il éclate en sanglots. Il a le verre, comme ça il tremble le verre, parce que tellement il sent la sainteté de Shabbat tellement fort. Tous les
Shabbats.
Hein? C'est extraordinaire. C'est des choses palpables. Ça marche. Ça marche.
On va continuer avec quelqu'un dans le coma, on ne dit pas quel jour on est. Il se réveille, on lui demande ses Shabbat, il apporte ses Shabbat.
Avec Marie-Auto, je vais faire comme ça.
Non, mais je vous dis, c'est-à-dire, il ne va pas dire, il n'y a aucune vibration, c'est pas Shabbat. Il va sentir des vibrations, c'est psychologique. Hein.
Oh, okay.
C'est notre sujet, si on peut.
Ok.
Moi, je l'ambiance, les cours, ces machins, en termes de photos. Ah,
et tous les racisés, Marie.
Moi, je dis que.
Leur poignard, c'est pas non.
Hein?
Ah, le gars, il crie, il donne de ouf, il pleure, c'est quoi, je
dis. Leur poignard, c'est je te raconte une réalité qui n'est pas le cinéma. Il n'y a pas de cinéma. Des larmes, ce n'est pas du cinéma. Moi, je voulais être en faire du cinéma. Moi, j'en sais où.
Ils sont tellement proches de Dieu qu'ils pleurent beaucoup plus facilement. Mais
oui, t'as dit, c'est chaud d'intelligent.
Ouais.
Ils sont proches de Dieu. Ils sont proches de Dieu. Donc, Yoni pose la question, comment on fait maintenant pour se rapprocher de Dieu alors qu'on ne connaît pas? Le meilleur moyen, c'est de connaître, parce qu'on ne peut jamais le voir, Dieu. On peut y penser, il faut y penser. Mais le moment où il est le plus palpable, c'est quand il se dévoile, chacun qui se dévoile, et sa malchoute, sa royauté, c'est-à-dire le roi, il est là, on vient, on nettoie la maison, tout ça. Et en fonction des préparations aussi, il y a un feedback, quelqu'un, il reçoit Shabbat comme ça, rien qui se passe. Ici, il bosse comme un dingue, d'accord, il n'y a pas de travailler, c'est marqué tous les chachamim dans le Talmud, qui pour eux, chaque seconde de Torah valait des milliards, ils arrêtaient d'étudier, ils allaient préparer Shabbat. Un, il coupait des bûches, l'autre il déménageait des choses, l'autre il allait au marché, hein, il nettoyait le poisson, l'autre il nettoyait le bœuf, chacun il s'occupait préparer soi-même, c'est le mitzvah chacun de nous, on doit préparer des choses pour Shabbat, c'est obligatoire, et si possible, transpirer pour. Quand tu transpires pour Shabbat, tu peines pour, il y a un feedback, il y a une préparation, donc il y a une chose extraordinaire, une chose extraordinaire qui se passe avant Shabbat, et quand ça vient, ça vient. Et excusez-moi, mais n'importe quel juif de moyen niveau déjà, il perçoit le Shabbat. Il perçoit le Shabbat. Il y a des fois des cas exceptionnels. Il ne faut pas non plus croire, hein, déjà des fois je fais ce cours, je crois qu'on fait Shabbat, il y aura des fumées de jeunes, d'accord, des trucs d'artifice. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je parle maintenant de choses fines au niveau du senti, au niveau spirituel. Mais à nous d'aller, d'affiner cela et de ressentir.
Et vous disiez tout à l'heure que si on fait bien Shabbat, toutes les fautes sont effacées.
C'est marqué.
Moi j'ai toujours cru qu'il y avait des fautes qui sont effaçables.
Oui.
Il y en a qui sont ineffaçables.
J'imagine que c'est comme Yom Kippour. C'est-à-dire que Yom Kippour, d'abord il n'y a aucune faute qui est ineffaçable. C'est faux. Aucune. Aucune. Tout est réparable. Mais il y a un processus. Les lois positives font faute Shuvah. Loi négative ou Shuva, Shuva suspend, mais il faut Yom Kippour. Et Yom Kippour sans Shuva ne sert à rien. Les fautes graves, il faut aussi souffrance ou palliatif, étude de Torah. Ça suspend. Maintenant, toutes ces choses-là, si tu as Kippour, si tu as souffrance, mais tu n'as pas de Shuva, ça ne sert à rien. Shuva, c'est nécessaire. Donc, Shabbat aussi, ça fait Shuva. D'ailleurs, Shabbat, c'est le mot Shabbat, c'est la racine du mot Shuva. Shavta, tu reviendras vers Dieu, c'est le mot Shabbat. C'est le moment où on revient vers Dieu. C'est le moment du mort avec Dieu. C'est le moment. Le vendredi, c'est une fin, c'est un jour de Shabbat. La fin de la semaine, c'est un jour de Shabbat. C'est pas le plus grand jour de Shabbat que le vendredi. Tu viens après propre, tu as nettoyé tes péchés, tu sais, Shabbat, on t'efface tout ça. Condition que tu as quelqu'un qui a tous à Averot, vendredi et tous en Aïron, dans son Shabbat, comme ça pour aller dormir. Et la DAS, d'accord, et. D'accord, il n'y a rien, c'est un. C'est rien, c'est prendre des belles choses. Tu peux donner le meilleur vin, tu peux donner le meilleur vin du monde à quelqu'un qui n'a pas mis en place les éléments de dégustation du vin, il passe à côté. Ça, il faut apprendre les lois, il faut apprendre c'est quoi le Shabbat, qu'on est en train de le faire maintenant. Il y a un livre que je recommande beaucoup en hébreu. Je commence un peu à lire, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, mais c'est extraordinaire. Des gens m'ont dit que, entre avant et après tout ce livre, le Shabbat a complètement changé. C'est un livre qui est sorti dernièrement du Rav Shimon Pinkus sur le Shabbat. Je crois que c'est Shabbat Malké,
en hébreu.
C'est en hébreu. Et c'est des notions de mystique juive qu'il arrive à réduire pour le donner vraiment en termes de vulgarisation. C'est là-bas, c'est vraiment le sens profond du Shabbat de là-dedans. Moi, je donnais vraiment le peu que je ne sais pas. D'accord. Voilà.
Bon. Question encore sur l'Avera. Pourquoi on met du vin derrière les oreilles et...
Non.
On ne met pas.
Ah ouais,
derrière les oreilles. Non. Sur les oreilles, dans la tombe de vie.
Ce qui est marqué, c'est de mettre les chibouv mitzvah, par amour de la mitzvah, on en met sur les paupières. Ça, c'est marqué dans la halakha. D'accord. Il y en a qui mettent un peu ici aussi, parce que c'est là qu'il y a l'os duquel on renaît à ce qu'il y a ta métier, la résolution des
corps.
Il y en a qui mettent dans la poche pour avoir de l'argent. C'est un peu de la combine qui sert vraiment à quelque chose. D'accord. Au niveau de la combine, c'est bien. L'alakha stricte, c'est qu'il n'y a pas amour de la mitzvah, on en met un peu sur les paupières. Ça, c'est ce qui est marqué clairement dans l'alakha. Au niveau des combines, chaque jour de mitzvah, et là, la fikoman, on dit que c'est une protection, la promesse de la force contre le vol, chaque chose a, par rapport à ce que ça agit dans les mondes supérieurs, ça a une influence au niveau de... J'ignore pourquoi les paupières. Par rapport à la lumière, maintenant, c'est la lumière. Noé, Esh. Oui, la question de Mordechai. Bon, c'est marqué, c'est très bien. On a dit ça a à voir avec le Shabbat, tout ça, et bien, ça va avec Géoula. Ok, bon, je vais vous la quand même bien bientôt. Bah, ou Fadona, quand même, mais.